Bonsoir à tous et bienvenue dans cette belle station Ozone. Grâce à Denis Mola, nous avons ce magnifique lieu pour vous recevoir. Et j'ai l'immense plaisir de vous présenter François-Frédéric Guy ce soir.
Bonsoir. Très heureux d'être avec vous pour cette petite discussion.
Alors François-Frédéric Guy, donc on va avoir le plaisir de vous écouter, avoir le plaisir d'échanger. Je rappelle rapidement par où vous êtes passé. Ça peut intéresser notre auditoire de comprendre aussi votre parcours.
Bien des méandres.
Donc, vous êtes disciple de Dominique Merlet et de Christian Ivaldi. Et c'est donc deux personnalités qui vont influencer votre carrière.
Dominique Merlet, qui était bordelais.
Bordelais.
Oui, qui est bordelais, oui. Absolument.
Et disciple de Nadia Boulanger, donc une lignée vraiment passionnante.
Exactement.
Vous êtes, on va parler du répertoire un petit peu plus tard, le répertoire qui vous habite et que vous souhaitez mettre en valeur. On peut dire déjà que vous êtes à la fois un spécialiste du grand répertoire, répertoire le piano romantique, de Beethoven jusqu'à Prokofiev dans les modernes.
Oui, mais aussi je défends beaucoup la musique contemporaine.
Et la musique contemporaine.
Et la création aussi, beaucoup.
Voilà,
beaucoup,
c'est beaucoup. Un aspect pas si souvent développé par les adeptes du grand répertoire. Vous avez notamment travaillé avec Bruno Mantovani, avec Marc Monet, Hugues Dufour, pour Gérard Pesson.
Oui, je pourrais expliquer juste quelques petites choses pour ces compositeurs. Bruno Mantovani, un très jeune compositeur de la génération, nouvelle génération, déjà joué mondialement, qui est le plus jeune directeur que le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris ait jamais eu. Donc, il a aussi cet aspect, donc il dirige le Conservatoire. Et puis Marc Monet, compositeur là vraiment très établi depuis toujours, et qui est actuellement aussi le directeur du Festival du Printemps des Arts de Monte Carlo, très très grand festival qui mêle aussi orchestre, musique de chambre, solo, et dans lequel j'ai joué ma première intégrale des 32 sonates en 2008. Donc c'était un petit peu une chose que je voulais dire. Et je joue aussi la musique d'un compositeur que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui travaille beaucoup à Bordeaux, c'est Christian Loba. Voilà, et je crois qu'il a travaillé à l'Opéra de Bordeaux, et j'ai déjà joué sa musique, et il vient de m'écrire une pièce récemment pour un piano qui s'appelle Just a Standard, puisque ça commence comme un standard de jazz, pour après aller vraiment dans des choses complètement folles, et que je créerai cet été dans un des festivals d'été, nombreux festivals d'été français.
Oui, car vous avez été dédicataire de plusieurs œuvres déjà.
Oui, oui. Et aussi, effectivement, vous avez mentionné Hugues Dufour. Ça, c'est une école, ce qu'on appelle l'école spectrale, voilà, avec Tristan Murail, Hugues Dufour. C'est des compositeurs qui sont aussi joués mondialement par l'orchestre de la BBC, aussi beaucoup en Allemagne et en Amérique. J'ai créé effectivement des pièces d'Hugues dans les 10 dernières années. Et actuellement, le compositeur Tristan Murail m'écrit un concerto pour piano que je créerai en 2020 dans plusieurs capitales européennes.
Ça veut dire à quel point l'agenda d'un pianiste international tel que François-Frédéric Guy est déjà établi sur un certain nombre d'années.
Oui, avec un peu d'avance, effectivement.
Donc, la collaboration avec deux compositeurs vraiment très établis,
une grande notoriété, et en même temps, évidemment, pour un pianiste qui, comme vous l'avez rappelé, était quand même plutôt un gardien de musée, hein, un musée sublime, un musée du Louvre, sans nul autre pareil, avec 300 ans de musique, mais quand il est confronté à la musique d'aujourd'hui, et quand il a la chance de pouvoir échanger avec les compositeurs vivants et puis jouer leur musique, c'est encore quelque chose de encore aussi et aussi passionnant, à tout le moins.
Et collaboration également avec de grands chefs d'orchestre, on peut citer Esa-Pekka Salonen, le finlandais, Kent Nangado, Pascal Roffé, Bernard Haitink, des souvenirs, j'imagine, très forts.
Inoubliables. Aussi le jeune Daniel Harding, qui vient de prendre la direction de l'Orchestre de Paris, avec lequel j'ai joué le deuxième concerto de Brahms il y a quelques années. C'est des souvenirs, évidemment, inoubliables.
Et ça, à la tête,
et
donc...
Et bien sûr, Philippe Jordan, je veux le citer, puisque c'est avec lui que j'ai enregistré et joué ma première intégrale des 5 concertos dans les années entre 2008 et 2010, des 5 concertos de Beethoven, bien sûr. Et je pense à lui aussi tout particulièrement. Il est devenu maintenant le chef de l'orchestre de l'Opéra de Paris. À l'époque, nous avions enregistré l'intégrale des concertos avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Et donc, depuis, évidemment, lui aussi a fait beaucoup de chemin et est devenu l'immense chef qu'on connaît, qui a joué les opéras de Wagner à Paris, notamment la tétralogie, qui n'avait pas été jouée à l'Opéra de Paris depuis 50 ans. On l'avait eu au Châtelet, au Théâtre des Champs-Élysées, pas dans le cadre de l'Opéra de Paris. Donc évidemment, ça a été un événement immense. C'était pour l'année Wagner en 2013. Et je pense à lui particulièrement, puisqu'il y a 15 jours, j'ai fait mes débuts à Vienne avec son orchestre, parce qu'il a aussi, il est aussi le directeur de l'orchestre symphonique de Vienne, ce qu'on appelle les Wiener Symphoniker, qui est le deuxième orchestre avec le Wiener Philharmoniker, cette ville vraiment qui est de Vienne, qui est vraiment qui respire
cinq
la musique.
Cinq orchestres, je crois.
Oui, oui, c'est vraiment. Niveau. Et puis tous les musiciens, à chaque coin de rue, il y a la maison de Brahms, de Beethoven, de Schubert. Il y a le buste de Mahler dans l'opéra. Enfin bref, c'est la ville de la musique. Et j'étais heureux de jouer le troisième concerto de Bartok sous sa direction il y a 15 jours. Voilà, je pense. Je pense beaucoup à lui et à tout ce que je lui dois et à tout le plaisir de faire de la musique avec lui à ce niveau.
Donc Vienne, mais aussi on peut citer Moscou, Québec.
Oui, bien sûr, Montréal.
Londres,
Washington, New York.
Et du coup, je ne résiste pas à la tentation de vous poser la question, comment fait-on pour voyager aussi souvent
Oui, il y a un aspect du métier dont on parle peu, finalement. C'est cette espèce de... Tout le monde attend de nous toujours qu'on soit évidemment au top niveau, et c'est normal quand on va payer sa place de concert et qu'on a un concert, on veut entendre l'artiste au plus haut niveau et au mieux de sa forme, dans le répertoire qu'il a choisi et qui plaît au public. Mais la difficulté pour nous, c'est presque une difficulté de sportif aussi, c'est-à-dire jouer avec le décalage horaire, les voyages. Je disais tout à l'heure en aparté à Rémi qu'à la fin du mois, je commence mon marathon des grands voyages continentaux, et je vais jouer à Montréal le triple concerto de Beethoven à la fin du mois, et après je vais directement à Tokyo de Montréal pour faire toute une série de concerts au Japon. Et juste ça, il faut se rendre compte que de Montréal à Tokyo, il y a 14 heures de décalage horaire. Donc ça veut dire qu'à un moment ou un autre, vous allez jouer au moment où il va falloir, en fait, normalement, vous devriez dormir. Et il va falloir être comme ça, au flamboyant, alors que vous allez être dans un état absolument terrifiant, en fait. Sans compter, évidemment, la difficulté d'avoir la concentration, la mémoire, se souvenir, ne pas être affecté, en fait, par ces choses parasites, les voyages. On est obligé, voilà, d'aller d'un endroit à un autre. Même si, à notre époque, les voyages sont incroyablement rapides, puisqu'on peut effectivement aller de... presque Montréal, je dirais Toronto, à Tokyo d'un seul coup d'avion. Mais quand même, pour le cerveau, pour le corps, pour la concentration, c'est quelque chose qui reste quand même toujours très difficile à gérer. Ça fait partie, effectivement, sans parler du fait qu'aussi, on ne joue pas forcément le même répertoire quand on va être à Montréal et 4 ou 5 jours après à Tokyo.
Donc c'est une attention particulière au sommeil, à l'alimentation.
Oui, bien sûr. Il faut essayer de se caler le plus vite possible. Je dois dire, j'ai la chance de voyager dans de bonnes conditions, mais quand même, ça reste une épreuve. Et surtout, je dis, pour la concentration. Oui. C'est la chose, quand on se retrouve après sur scène, devant 2000 personnes, il faut être vraiment...
Et alors, on dit que la mémoire est un muscle qui ne demande qu'à être travaillé, mais comment fait-on pour préparer en parallèle peut-être 3, 4, 5 programmes différents ?
Mais ça, je le dois. Par exemple, c'est une chose, on parlait de Dominique Merlet tout à l'heure, mon professeur qui est natif de Bordeaux, que j'ai connu quand j'avais 11 ans, et après dans la classe duquel je suis rentré au Conservatoire de Paris. Et il m'a tout de suite préparé, et ça, c'était un aspect extraordinaire de son enseignement, à dire, mais non, mais c'est pas parce que tu travailles un morceau que ça ne suffit pas, même si tu le travailles très bien. Et on faisait à chaque fois, en fait, il donnait un programme comme si on allait donner un récital. Alors déjà, c'était quelque chose. On travaillait 3 œuvres en simultané. Et à l'époque, bon, j'avais 16 ans, même plus tôt, quand j'avais 13-14 ans, je prenais des cours privés avec lui, il faisait déjà ce travail. Alors ça me paraissait énorme. Je me disais, mais comment je vais pouvoir, dans une journée, même si je travaille 5 ou 6 heures par jour, parce que c'est un peu le rythme qu'on a quand on est en préparation, c'est aussi une question que le public peut se poser, c'est la préparation, le temps de travail, on dit toujours, mais ceci dit, je ne suis pas tout à fait exceptionnel par rapport à tout un chacun, c'est-à-dire tout un chacun travaille 6 heures par jour, au moins, peut-être plus même, beaucoup plus même, chacun dans ses métiers respectifs. Mais c'est vrai aussi que Quand on se met au piano, il y a aussi, comme on disait, cette dimension physique. Donc, c'est vrai que travailler 6 heures, même si on les répartit dans la journée, ça peut être plus quand on prépare les 32 sonates. Quelquefois, je suis allé à des nombres d'heures incalculables dans la journée. Alors après, il ne faut pas qu'il y ait des crampes, il faut pas qu'il y ait... Voilà, il faut faire un petit peu de sport. Bon, j'en fais pas assez, je vous le dis tout de suite. Je devrais en faire plus, mais j'ai plutôt la maxime de Winston Churchill dans la tête. On se disait, mais quel est votre secret pour vous avez affronté la guerre, Staline, la conférence de Yalta, etc. Quel est votre secret? No sport. Voilà. Alors mais en fait, j'ai tort. Il faut faire un peu d'exercice. Voilà, il faut se tenir, maintenir en forme, parce que voilà, c'est quand même un métier physique, intellectuel, physique, c'est tout en même temps, et avec capacité d'appréhender ce qui va arriver. C'est à quoi, donc, quand on joue un morceau aussi sur scène, il faut avoir la totalité du morceau dans la tête. On sait qu'on va d'un point A à un point B. Plus évidemment tous les événements qui vont se passer de ce point A à ce point B, qui peuvent être énormes, immenses, variés, difficiles, méditatifs, virtuoses, que sais-je. Et en plus, il faut avoir créé en direct. C'est-à-dire qu'on rejoue la musique, c'est pas notre musique, puisqu'on joue la musique des autres, Beethoven, Mozart, on a dit tout à l'heure, Mantovani, que sais-je. Mais on doit en même temps avoir un aspect de création. C'est-à-dire qu'on doit avoir cette possibilité d'apporter notre personnalité à la musique, c'est-à-dire notre compréhension de ce qu'on croit que le compositeur a voulu, pour que vous, le public, vous disiez « Ah oui, c'est beau, j'ai ressenti ceci, cela », même quand on n'est pas connaisseur. C'est ça notre travail, en fait. Donc, et ça demande beaucoup d'anticipation. Certains disent que les pianistes ont... pour ce qui est de l'anticipation et tout ça, je parlais de tous les musiciens, naturellement, et même des chefs d'orchestre et tout ça, encore plus des chefs d'orchestre. Mais les pianistes, il y a cette espèce de... Il y a eu des études faites, qu'il y a cette correspondance avec les chirurgiens, en fait. J'ai vu un article récemment, c'est-à-dire qu'il y a cette capacité du millimétrage, de la projection sur le résultat qu'on doit avoir dans quelques minutes, dans quelques heures pour certaines grandes opérations, grandes œuvres de musique. Et cette habilité aussi à faire marcher donc l'aspect conceptuel et l'aspect mécanique aussi, parce que finalement, il faut que les doigts, la pure mécanique, marche aussi, fonctionne très bien. Donc, il y a cette espèce de corrélation.
Et puis, vous parliez tout à l'heure du droit à l'erreur, ou plutôt du fait que le public attend de vous que vous soyez vraiment parfait. Le chirurgien, comme l'artiste, ne se permet pas l'erreur.
On essaye, on en fait toujours. L'erreur est humaine, on dit toujours, mais voilà, on attend qu'on soit un tout petit peu moins humain que les autres, peut-être. Non, sérieusement, il y a aussi la chose, c'est que avec les enregistrements, l'enregistrement a aussi fait que les gens, souvent, le public attend, et moi-même, quand je suis dans le public, attend un résultat d'enregistrement en live, finalement, en direct. Or, l'enregistrement, c'est fait de multiples prises, de reprises, de... Voilà, ça n'allait pas, on refait, etc. Alors que quand on est sans filet, ce qu'on appelle en live, en direct, on a effectivement, par définition, pas de filet, on ne peut pas reprendre, et pourtant, on voudrait entendre comme la perfection du disque, sur lequel on a passé 4 ou 5 jours à n'arrêter pas de couturer, reprendre, assembler, etc. Donc, évidemment, ça met la barre très très haut, tout d'un coup, pour les artistes. Ils se disent, ben oui, en fait, mais là, c'est pas un disque, c'est en vrai.
Et là, vous parliez en introduction des 32 sonates de Beethoven.
Quelques mots juste sur cette sonate, mais tout très très court, C'est la 8e sonate, donc il y a 32 sonates, donc c'est plutôt dans la première période de Beethoven, et c'est un petit peu, je dis souvent, le mai 68 de Beethoven. C'est-à-dire que jusqu'à cette sonate, il était plutôt l'héritier de Mozart, Haydn, très avec déjà beaucoup de personnalité, mais disons dans l'hommage et dans l'imitation des grands modèles. Et tout d'un coup, avec cette sonate, il casse tous les codes. Il fait jouer très fort, il fait jouer... la musique change complètement, elle n'est plus du tout aussi classique, on ne ressent presque plus l'influence de Mozart. Et donc, c'est vraiment une révolution. C'est à partir de cette sonate qu'on peut dire qu'il devient vraiment lui-même. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une sonate. Et d'ailleurs, c'est un peu le cas de toutes ces sonates qu'on dit à nom. Ces sonates qui ont un nom, c'est pas par hasard. C'est pas que les autres sonates sont moins belles ou moins importantes. C'est des sonates qui ont fait franchir les étapes. et franchir les étapes dans le développement musical de Beethoven et aussi finalement dans l'histoire de la musique. Et c'est pour ça qu'elles sont restées si célèbres. Je pense à bien sûr Pathétique, La Claire de Lune, La Passionata, La Tempête, L'Aurore, toutes ces sonates qui ont fait que c'était à chaque fois, on avait l'impression que l'histoire de la musique changeait vraiment. On n'entend presque plus Mozart. Et tout d'un coup, et ces accords très forts, et tout d'un coup, ces montées, ces crescendo, cette passion qui est déjà romantique, il ose exprimer tous les sentiments de l'être humain. Et c'est pour ça qu'il nous parle vraiment de cœur à cœur. On pourrait dire que Mozart, Bach, cette musique est parfaite. Elle est l'œuvre divine. Elle est l'œuvre de quelque chose qui nous est supérieur, si on extrapole. Alors que Beethoven n'est pas parfait. Si Mozart entendait cette musique... Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ces notes dans le grave, dans cette histoire ? On comprend rien, on n'entend rien, c'est trop brouillon, c'est pas assez maîtrisé. Maîtrisez vos sentiments un petit peu. C'est ça qu'il lui dirait s'il était son professeur. Et là, tout d'un coup, Beethoven, il dit, mais non, je fais ce que je veux. J'exprime nos sentiments, les vrais sentiments qu'on n'a pas le droit, parce qu'il faut se replacer dans l'époque aussi. Hein. Cette sonate, c'est 1797 ou 98, une époque où c'est compliqué d'exprimer ses sentiments en public. La musique ne doit pas doit exprimer simplement les choses très élevées, très nobles, sauf si on est vraiment dans la comédie. Et encore, quand Mozart a voulu écrire ses opéras, ses comédies, on lui a dit non, les sujets. Quand il a voulu faire l'enlèvement au sérail qui s'est passé en Turquie avec un harem, etc. Il dit non. En plus, il voulait le faire chanter en allemand, ce qui à l'époque n'était totalement impossible, puisque la langue de l'opéra c'était l'italien, même si on était un compositeur allemand. Et donc, ce que je veux dire, c'est que les compositeurs ont essayé de s'émanciper. Mozart, on vient de le dire avec l'opéra, mais après, c'est surtout Beethoven qui a fait vraiment basculer et a libéré un petit peu l'expression. Et c'est pour ça que ça sonne moins classique, ce qu'on appelle vraiment classique, c'est-à-dire Mozart, Haydn, et puis la musique d'avant, Bach, bien sûr, très sérieuse, même si elle est sublime. Et Beethoven est beaucoup plus humain, beaucoup plus passionné, et finalement annonce notre époque.
Et donc les 32 sonates enregistrées, 5 concertos enregistrés, est-ce que votre projet Beethoven serait terminé ?
Non, il n'est pas du tout terminé, parce que évidemment, quand on parle de Beethoven, on pourrait dire même que le projet il n'aura jamais de fin, puisque après je continue à jouer ses œuvres, et puis peut-être que je réenregistrerai aussi, notamment les concertos que j'aimerais un jour enregistrer, peut-être les diriger du piano. C'est une chose que j'aimerais beaucoup, que je fais régulièrement et que j'aimerais peut-être graver sur un disque. Mais actuellement, ce qui prolonge le Beethoven projet, et le continue en tout cas, c'est l'enregistrement de l'œuvre de musique de chambre. Alors j'ai enregistré récemment les sonates pour violoncelle et piano, toute l'œuvre. En fait, il y a cinq sonates plus des petits cahiers de variations.
Avec Xavier Phillips.
Un merveilleux violoncelliste qui était un protégé de Rostropovitch, hein, qui a gagné le concours de Rostropovitch, qui l'a très très bien connu, travaillé avec lui, qui a même joué sous sa direction à Carnegie Hall à New York il y a quelques années la symphonie concertante de Prokofiev, qui est une œuvre en fait qui est comme un concerto de violoncelle et qui avait été écrite par Prokofiev pour Rostropovitch. Donc c'était une très belle transmission de témoins, que ce soit Xavier qui la joue sous la direction de Rostro. C'était un moment évidemment énorme de sa carrière, sa magnifique carrière internationale. Je suis heureux d'avoir fait ces Beethoven avec lui. Et là, récemment, pour continuer le projet, je viens d'enregistrer l'intégrale des 10 sonates de violon et piano, cette fois-ci, donc avec mon autre partenaire, Teddy Papavrami. Vous connaissez peut-être le nom, c'est un merveilleux violoniste d'origine albanaise, mais dont les parents, d'ailleurs, habitent à côté de Bordeaux, je crois. Le père de Teddy, était un professeur de violon extraordinairement reconnu, et Teddy, après, a eu une histoire. Alors ça, lui, c'est sa vie, c'est un thriller qu'on pourrait mettre, dont on pourrait faire un film avec Tom Hanks, ou dans le rôle principal de Teddy, puisque, évidemment, il y a eu la fuite d'Albanie, de ce régime absolument sanguinaire de Enver Hoxha, avant la chute du communisme dans tous les pays d'Europe. Et ce qui a été compliqué pour Teddy, je fais une petite aparté parce que c'est une très jolie histoire. Teddy était un enfant prodige, puisque quand il avait 11 ans, il jouait déjà les 24 caprices de Paganini, il jouait déjà les concertos. Enfin, c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel et dont le régime s'est servi à l'époque comme vitrine. Donc il était en même temps pris, parce que les régimes communistes, déjà en Union soviétique, avec les grands artistes comme Richter et tout ça, montraient en faisait des vitrines pour une propagande, mais au niveau de l'Albanie, qui était un pays extraordinairement fermé, où même les gens n'avaient même pas de passeport, puisqu'ils n'avaient pas le droit de sortir. Il n'y avait même pas de carte d'identité, Et c'était quelque chose d'effarant. Et il s'en est... Le dictateur l'a autorisé à venir étudier avec le fameux violoniste Pierre Amoyal en France, exceptionnellement. Et lors de sa deuxième visite ou troisième visite, je ne sais plus exactement l'histoire, on peut le lire dans son livre « Fugue pour violon seul », que je vous recommande, qui est édité chez Robert Laffont, qui est très émouvant. Ils se sont échappés, en fait. Ils ont échappé, ils ne sont pas rentrés. Mmh. Donc il y a eu des conséquences énormes sur sa famille en Albanie, qui a été déportée. Enfin, ça a été vraiment une histoire. Oui, je vous dis, un thriller politique. Ils se sont cachés pour échapper aux services secrets albanais en France. Mmh. Donc, et puis il a demandé l'asile, etc. Donc son histoire est une, et c'est une merveilleuse histoire parce que finalement, bah, il a réussi à être le. Malgré tout, le violoniste au plus haut niveau qu'il est, et qui est vraiment adulé. Et on peut revoir aussi sur YouTube, quand il avait 13 ans, on peut le voir jouer au Grand Échiquier de Jacques Chancel, qu'il avait été invité à l'époque. C'est très émouvant. Il est en Bermuda, il est tout petit enfant. Et c'était vraiment quelque chose de belle histoire. Donc voilà. Nous, et le disque, pour revenir à cette intégrale des 10 sonates avec Teddy, donc, sortira le 6 octobre prochain.
Une autre question à propos de Beethoven ou d'un autre compositeur, d'ailleurs. Vous avez enregistré parfois deux fois, peut-être trois fois la même œuvre. Comment est-ce qu'on aborde de nouveau une même œuvre, 2 ans, 5 ans, 10 ans après, pour le disque ?
Une œuvre mûrit au fur et à mesure que nous-mêmes mûrissons. Et nous-mêmes avons expérimenté aussi les œuvres au concert. Et par exemple, c'est vrai que la sonate, la 29e sonate de Beethoven, donc la plus difficile et la plus grande de toutes, la dite Hammerklavier, qui fait 45 minutes et qui dépasse tous les codes, qui bascule tout ce qu'on peut imaginer. C'est une œuvre que j'ai enregistrée trois fois, en fait. J'ai enregistré une première fois il y a 20 ans. C'était mon premier disque, qui était d'ailleurs une collection des nouveaux interprètes chez Harmonia Mundi. Oui. Puis après, quand j'étais chez Naïve, je l'ai réenregistré au milieu des années 2000. Et quand j'ai fait, bien sûr, l'intégrale des 32 sonates là, à l'Arsenal de Metz. Elle faisait partie, évidemment, de cette intégrale. Donc... Mais ça fait partie de ces œuvres gigantesques dont on ne peut absolument pas se satisfaire d'un seul enregistrement, je dirais, pour moi. Alors là, je parle vraiment égoïstement. Il y a aussi ce fait que, maintenant, la durée de vie des disques est très courte. C'est très difficile de trouver un disque qu'on a fait. Alors, on peut le trouver sur Internet, mais y a des disques qu'on ne trouve plus. Certains de mes premiers disques, on ne peut plus les trouver. Donc, on peut aussi avoir une justification à réenregistrer, simplement parce que les premiers disques ne sont plus sur le marché. Et donc, pourquoi ne pas réenregistrer ? Et souvent mieux, pas forcément... Les enregistrements de jeunesse sont intéressants parce qu'ils sont spontanés. Et puis, ils sont généralement... On veut montrer qu'on a eu une idée, etc. Par contre, les enregistrements un peu plus tardifs sont plus décantés. Et donc, on a fait un peu la synthèse de tout ce qu'on a expérimenté en concert. Et donc, du coup, ça peut être aussi intéressant. Bon, voilà, c'est des raisons. Et j'aime beaucoup revenir sur des œuvres. Effectivement, les sonates de violoncelle, par exemple, je les avais enregistrées il y a 20 ans avec la violoniste Anne Gastinel.
Ah oui.
Et d'ailleurs, c'est amusant parce que je crois que l'un des volumes avait été enregistré à Gradignan, au Théâtre des Quatre Saisons.
Ah voilà.
Qui a une très bonne acoustique. Excellent. On fait de nombreux enregistrements.
Voilà. Alors, une autre question, que nouveau la chance de vous avoir à Bordeaux cette semaine ?
Ah, oui, c'est une... Alors, on fait depuis plusieurs années, je donne quelques masterclass de piano au pôle supérieur de musique de Bordeaux. Et c'est ça,
je me suis... Oui, tout à fait, peut-être vous connaissez
dans la dénomination.
PESMD Bordeaux-Aquitaine, voilà, le conservatoire supérieur à Bordeaux.
Le conservatoire. Et cette année, on a eu envie de faire une chose un peu différente, c'est-à-dire au lieu d'aller enseigner aux pianistes, je me suis dit, mais pourquoi on ne ferait pas une session avec l'orchestre des jeunes du conservatoire ? Donc, c'est-à-dire, moi, je suis là comme soliste et aussi comme chef d'orchestre. C'est-à-dire que je les dirige du piano, ce qu'on appelle en jouer-diriger. Et nous faisons une session autour de trois œuvres de Mozart, les célébrissimes 20e et 21e concertos, et puis un petit rondo aussi qui sert d'ouverture. Et j'ai trouvé que c'était une expérience intéressante d'associer l'orchestre des jeunes et mon expérience de pianiste pour donner ce programme. Mmh. Alors, donc voilà, nous travaillons depuis quelques jours, là. On a fait des grosses sessions. Je suis un petit peu fatigué ce soir. Et on a fait toute la journée, on a travaillé nos concertos. Et puis donc, ce sont des jeunes, hein, donc ils n'ont pas forcément l'expérience. Et en plus, eux, ça les fait aussi réagir. Le jouer dirigé, en fait, retrouve l'esprit de comment on jouait ses œuvres quand elles ont été composées. Car quand Mozart a composé ses concertos, aussi bien d'ailleurs que Beethoven, il n'y avait pas de chef d'orchestre. Donc c'est le pianiste qui dirigeait et qui donnait les impulsions avec l'aide du concertmeister, premier violon solo. Mais il n'y avait pas de chef d'orchestre. Les chefs d'orchestre sont apparus en fait quand la musique s'est complexifiée, s'est densifiée surtout au niveau du nombre d'instrumentistes. C'est-à-dire quand on est arrivé avec des orchestres de 50 ou 60 musiciens, c'était difficile de jouer en jouer dirigé, parce que d'abord, physiquement, vous vous rendez peut-être pas forcément compte, mais ceux qui sont au fond de l'orchestre sont très très loin de l'action, et pour que tout le monde soit ensemble dans des musiques assez complexes, concerto de Brahms, concerto romantique, concerto de Liszt, puis plus tard Rachmaninov, Prokofiev, tout ce que vous voulez, et ça devient difficile de diriger du piano, ou de l'instrument, on pourrait dire du violon, si c'est un violoniste qui joue. Et alors que là, quand on fait les Mozart, on les retrouve, on met le piano au centre de l'orchestre. Je suis dos au public. On enlève le couvercle pour que tous les musiciens puissent me voir comme chef et comme pianiste. Et donc, on retrouve un peu aussi un esprit de musique de chambre, de super musique de chambre, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'ils sont obligés aussi de faire un travail, ces étudiants, d'écoute, s'écouter entre eux. Quelquefois, je suis très occupé avec les traits virtuoses de Mozart, et donc je ne peux pas les diriger physiquement. Même si, bien sûr, il y a toujours les regards, il y a toujours les signes de tête. Et donc, ils sont obligés de faire un petit travail d'écoute et faire bien attention à être ensemble, sous l'impulsion d'un premier violon qui est un des solistes de l'orchestre de l'ONBA. Voilà, et donc, évidemment, ça a fait aussi une occasion de faire ce petit travail qui est intéressant.
Est-ce qu'on doit conclure que la transmission est une chose importante dans votre vie, dans votre carrière artistique ?
Oui. Alors, il est vrai que, pour des raisons de choix de carrière, j'ai enseigné un certain nombre d'années au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en tant que pianiste. Et puis, quand j'ai commencé à faire les intégrales des sonates, c'est-à-dire à partir de 2008, et puis toutes ces années, j'ai finalement démissionné parce que voilà, je devais faire un choix. Je n'arrivais plus à tout concilier. Et donc, j'ai moins donné de cours. Hein. J'ai moins enseigné. Je n'ai plus de poste fixe. J'ai donné de temps en temps des masterclass, comme j'ai fait ici, venir ponctuellement sur une durée de 4 ou 5 jours pour enseigner. Mais du coup, comme je n'ai pas de poste fixe d'enseignant, et je ne pense pas que ça arrivera maintenant, j'ai trouvé une autre manière, parce que j'ai besoin quand même de transmettre. Et j'aime aussi cette idée, par exemple, je dirige de plus en plus, je dirige du piano, mais aussi, je deviens aussi chef d'orchestre. J'ai dirigé avec
la baguette.
Oui, je suis notamment maintenant artiste invité avec l'Orchestre de Chambre de Paris, hein, avec lequel je suis en résidence pour les 3 ou 4 prochaines années. Et où nous avons bien sûr un travail comme on fait avec les étudiants là, c'est-à-dire un travail de en jouer dirigé du piano, mais aussi un travail de chef à proprement parler, puisque j'ai dirigé avec eux la cinquième symphonie de Beethoven. Et donc, je rebondis là-dessus pour dire que le Beethoven Project n'est jamais terminé, puisque maintenant, il y a même les symphonies de Beethoven qui arrivent à ce greffe. Et puis, bien sûr, l'expérience, comme je viens de le dire, du jouer dirigé des concertos, puisque j'ai fait plusieurs intégrales des 5 concertos de Beethoven, notamment avec l'Orchestre de Chambre de Paris, en jouer dirigé. Et ça a été vraiment aussi une extension un peu du Beethoven Project. Mmh. Donc, tout ça a une logique interne.
Et tout à l'heure, vous me parliez, quand nous préparions cet échange, aussi d'un projet Brahms qui sera en construction.
Alors, vous savez, Beethoven avait 2 fils spirituels, on pourrait dire, c'est Brahms et Schumann, hein, les 2 compositeurs romantiques. Alors, l'un était plutôt architecte et solitaire, c'était Brahms, qui était plutôt héritier des grandes sonates ou des grandes variations. Et puis Schumann, qui était plutôt un électron libre et qui a vraiment... on pourrait dire, là, il est plutôt l'héritier des variations Diabelli, par exemple. Alors que Brahms est plutôt héritier, on pourrait dire, des grandes sonates comme la Hammerklavier et l'Opus 100. Voilà, c'était l'architecte et puis le poète fou. Bon, voilà, je résume, hein, parce que c'est pas aussi simple que ça. Tout le monde est poète et tout le monde est architecte. Mais disons que Brahms, c'est quand même la grande forme, le côté aussi héritage du classique, la puissance, la grandeur. Et puis Schumann, c'est le monde de la nuit, c'est le monde plus insaisissable, etc. Moi, je suis plus proche de je me suis toujours senti plus proche de Brahms. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de commencer ce dictionnaire amoureux de Brahms pour reprendre un peu la célèbre dénomination d'une série de livres qui traitent de différents sujets, l'astronomie, la philosophie, etc. Le vin aussi.
On est à Bordeaux.
Ah, mais il faut me l'offrir. J'adorerais. Et alors, je suis un grand amateur de vin. Et comme beaucoup de musiciens. Donc ce projet Brahms, ça ne sera pas une intégrale de Brahms, mais ça, j'ai plutôt envie de faire partager au public les œuvres de Brahms que j'adore. Alors, au piano, à la musique de chambre, il y aura peut-être des extensions aussi, il y aura peut-être les concertos, tout ça, c'est en devenir. Et j'ai sorti le premier volume, l'année dernière, qui est consacré à des œuvres de jeunesse, donc les 3 sonates pour piano, dont Schumann disait quand Brahms lui a joué, puisque Brahms était le cadet de 20 ans de Schumann, donc quand Brahms est arrivé chez Schumann pour avoir ses conseils, il lui a joué ses propres sonates de jeunesse. Schumann lui dit, mais c'est le nouveau prophète de la musique allemande, ce qu'il a écrit. Il était un célèbre critique d'un journal à Leipzig, à part d'être un compositeur immense. Et il a écrit que Brahms avait été le nouveau prophète de la musique allemande, ce qui a beaucoup pesé en fait sur les épaules de Brahms et qui lui a mis une pression terrible. Donc c'était en même temps une phrase à double tranchant, c'était formidable comme évidemment lettre d'introduction, et en même temps ça a été un fardeau très lourd à porter. C'est ce qu'il a confié à la fin de sa vie. Brahms a confié à la fin de sa vie. Et donc quand il a entendu ces sonates, il a dit, mais ce sont de vraies symphonies pour piano. Parce que tout d'un coup, le piano sonne comme tout un orchestre, avec des grands accords.
Comme pour Liszt, on disait également ça de Liszt. Là, je vois votre disque sur la sonate, notamment.
Oui, alors ça, c'était une autre partie c'est une autre partie de mon répertoire, mais qui est toujours un peu dans le répertoire romantique allemand. Oui. Alors, Liszt occupe une grande partie de mon répertoire. Et là, c'était l'année Liszt en 2011, et donc j'ai profité pour enregistrer sur un piano exceptionnel, le piano d'un très grand pianiste spécialiste de Liszt à l'époque, mais pas seulement, aussi de Brahms d'ailleurs, Claudio Arrao, qui était un pianiste chilien, merveilleux pianiste, qui a laissé des concertos de Brahms inoubliables, et aussi, bien sûr, quasiment l'intégralité des grandes œuvres de Liszt sur disque. Et j'ai eu la chance de pouvoir enregistrer cette sonate et aussi le cycle des harmonies poétiques et religieuses d'après Lamartine, sur ce piano qui est en Suisse, dans une salle à La Chaux-de-Fonds, qui est assez célèbre, qui s'appelle L'Heure Bleue. C'est une salle où on a enregistré des centaines de disques. Et Arrao a enregistré aussi, à cet endroit, sur ce piano, ce Steinway de 1965, qui est dans un état collection, donc qui est un piano exceptionnel. Alors, on parlait de la grandeur et la puissance qui, quelquefois, nous effraie aussi un peu, nous, Français, de la musique de Brahms. Vous savez, le mot de Samson François, qui disait, le fameux pianiste qui jouait sublimement Chopin et aussi la musique française dans les années 60.
Ravel.
Ravel, bien sûr, Debussy, mais quand même, c'est Chopin qui a été sa pierre de touche. Il disait, « Ah, Brahms, rien que d'y penser, j'ai déjà mal au bras et j'ai mal à la tête. » Bon, c'était très français, franchouillard, on pourrait dire, comme réflexion. Maintenant, quand même, Brahms est quand même beaucoup joué partout et on s'est habitué. Il a écrit toutes ces petites pièces à la fin de sa vie comme une espèce de regard en arrière, lui qui était devenu, à ce moment-là, un compositeur immensément respecté et le compositeur vraiment adulé. Et il a écrit ses séries de petites pièces dans les années 1892. Donc vraiment, il est mort en 1897, assez prématurément, puisqu'il est le contemporain de Camille Saint-Saëns. Saint-Saëns est né en 1835 et Brahms en 1834. Et Saint-Saëns est mort en 1921. Alors qu'est-ce que Brahms aurait écrit comme musique s'il avait vécu aussi vieux que Saint-Saëns dans les années 1910, peut-être à une époque où Schoenberg écrivait déjà ses œuvres presque atonales. Et vous avez vu, c'est en même temps c'est très beau, mais c'est un peu déroutant, c'est assez moderne dans l'harmonie. On voit que le langage là aussi, c'est à nouveau une période de transition, d'émancipation.
Malléable.
Oui, c'est plus aussi net et clair qu'avant. Là, il cherche des nouvelles choses, des nouvelles combinaisons harmoniques qui vont amener la musique du XXe siècle, très tout doucement. C'est vraiment très émouvant, je trouve.
Voilà. Merci à vous tous.
Merci. Merci.